Carnet de voyage. Une invitation. Can't
anybody see? Bonjour amis auditeurs, pour ce nouveau carnet de voyage, nous recevons Patrice Ragoneau, bonjour.
Yorana, comme on dit chez moi en Polynésie.
Yorana.
Voilà, c'est bien ça.
Vous êtes tahitien.
Tout à fait.
On va voir que vous avez une boutique dont on parlera en deuxième partie, une boutique de gravure sur verre.
Tout à fait, tout à fait.
Donc on en parlera tout à l'heure. On va parler un petit peu de Tahiti.
Oui, bien sûr.
Vous y avez passé 40 ans ?
Ah, plus de 40 ans. J'ai passé toute ma jeunesse. Voilà. Donc Tahiti, c'est un peu spécial, on va dire. Avec 6 archipels que compose la Polynésie française.
Oui.
Voilà, 6 archipels. On a les archipels de, du vent, les îles du vent.
Ouais.
Qui s'appellent les îles du vent. On a les îles sous le vent. On a les Gombiers. On a les Tuamotu. Et après, on a les îles australes. Voilà. Les Tuamotu, c'est des îles sans montagne. Les îles basses.
L'image qu'on a dans la tête, nous, en métropole, c'est des lagons bleus, des sortes d'îles avec un demi-cercle, avec un lagon bleu d'une pureté incroyable.
Je confirme, je confirme. On a même les cocotiers, on a le soleil. Ouais, on en prend plein la vue. C'est vrai que quand on va en voyage en Polynésie, il faut le faire au moins une fois pour découvrir. On est assez sympa comme, déjà comme personne parce qu'on est assez agréable. On aime bien connaître les gens qui arrivent un peu de toutes parts. Voilà, on est assez ouvert. Les lagons bleus, turquoise, avec le soleil, les îles basses, ouais. Et du bon poisson, surtout du bon poisson.
Ça fait envie, ça. Des pirogues, hein, avec les flotteurs qui équilibrent. Ça existe toujours.
Ça existe toujours. On appelle ça des va'a, chez nous, en tahitien. Après, on le pratique encore. Ben, dans pas longtemps, non, moi, il va y avoir ce qu'on appelle la course de pirogue de Hawaii Kinui,
ouais.
Où on fait des traversées entre 60 km en ramant, à force des bras.
Ouais.
Où on prend des houles de 4 à 5 mètres. De 4 à 5 mètres. Et voilà, on rejoint des îles qui font 60 km, 40 km ou 20 km. Voilà. Donc tout ça à la force des bras.
Et on est deux sur la pirogue course.
On peut être une personne, trois personnes, six personnes ou 12 personnes. C'est différents, voilà, différentes sortes de pirogues qu'on peut avoir en Polynésie. Quoi.
Ouais. Et on a un petit peu l'image aussi des pêcheurs. Il y a toujours des gens qui vivent de la pêche là-bas?
Toujours, et c'est bien parce que quand on voit qu'on peut acheter du poisson très frais, on va au marché de papeter, on se ravitaille en poisson frais. Et heureusement qu'il y a ces pêcheurs-là pour nous ravitailler en poisson frais.
Et vous me disiez que le poisson n'a pas du tout le même goût qu'ici. C'est un goût beaucoup plus fruité.
En fait, si vous voulez, on n'a pas, le goût est, on va dire, est moins fort. Je ne sais pas si c'est la salinité de l'eau ou je ne sais pas comment l'expliquer. Mais le poisson en Polynésie est moins fort en goût. Donc on mange beaucoup de poissons, beaucoup de tubercules comme les taros, voilà, c'est des choses comme ça. Mais ça nous rebooste un peu.
Ouais,
ça,
voilà.
On tient bien la forme avec quoi, pour la journée.
Oui, oui, c'est un poisson énergisant.
Ah, très énergisant.
Et vous cuisinez, vous m'aviez dit tout à l'heure, vous le cuisinez un petit peu cru avec du citron.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une façon de le cuisiner. Hein. On découpe les poissons, on le met dans un grand saladier où on met du citron dedans pour enlever un peu l'amertume. Un peu, parce que, si vous voulez, ici, j'ai essayé, le poisson est très fort. Donc, c'est pour enlever l'amertume du poisson.
Ouais,
donc,
ouais.
On met appelé beaucoup de légumes, poivrons, concombres, tomates, etc. Pour ceux qui connaissent les carottes. Voilà. Et après, on met du lait de coco. Mais ce n'est pas du lait de coco en boîte. C'est du lait de coco, de la noix de coco.
Ouais,
voilà,
ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de noix de coco.
Il y en a énormément. Il y en a énormément. On fait du copra, on fait beaucoup de choses avec la noix de coco de chez nous. Voilà.
Ouais, okay.
Mais on met du lait de coco qu'on presse à la main. Voilà, tout est naturel. Tout est naturel. Voilà.
Et vous m'aviez dit que vous aviez fait un énorme saladier et tout le monde s'est rué dessus.
Oula,
tout le monde aime la cuisine de Polynésie.
C'est le cas parce qu'on a fait un poisson cru pour des amis. Avec, il faut savoir qu'à Tahiti, on mange beaucoup de riz aussi. Ouais. On a fait un plat avec ma femme. On a emmené à des amis. On a pris une petite assiette parce que nous, on connaît un peu on connaît le poisson cru à la façon tahitienne. Mais quand les amis l'ont mangé, en fait, ils nous ont saucé le saladier avec du pain. Voilà. Donc ils ont fait les choses comme il faut.
Ça, ça montre qu'ils ont apprécié.
Ah, ça, c'est à refaire, voilà. Mais un peu plus gros, un peu plus de monde. Je pense que voilà, il faut connaître un peu voilà comment on fait le poisson créole tahitien.
Les cultures entre guillemets polynésiennes. Moi, j'ai compris qu'il y avait les Maoris, les Pomotou, les Marquisiens.
C'est vrai que on a tous notre façon de parler. On n'a pas la même façon de parler. Un Marquisien, quand il vient à Tahiti, il parle le tahitien. Mais il a une autre façon de...
Il a un accent.
Voilà, ouais. Il a beaucoup d'accent. Nous, quand on dit à Tahitien comment ça va, lui, le Marquisien, il va te dire « Ehiat ehakatu ». Et nous, on dit « Ehiat ehuru ». C'est...
Ouais, il y a voyez, des petites
voilà,
différences.
Il ouais. y a beaucoup de différences. Voilà.
Mais il y a un tronc commun qui est le Tahitien. Quoi. Tout le monde
c'est
parle
ça.
Le Tahitien.
C'est ouais. ça. Le Tahitien, au moins, et puis après le français. Après, quand on va dans différentes îles, c'est vrai qu'il faut savoir quand même parler un peu le Pomotou et un peu le Marquisien. Ouais. C'est pas mal, quoi. Ça fait un peu, voilà, ça fait genre, comme on dit chez nous.
Oui, ça fait, c'est le minimum, indispensable.
C'est le minimum, indispensable.
Ouais. Alors, au point de vue religion, c'est un peu la même chose. Il y a énormément de religions. Ah. L'église protestante, Maoï, qui a eu beaucoup de fidèles, non?
C'est vrai que les protestants ont eu pas mal de fidèles. Bon, c'est pas des fidèles, c'est des gens qui se sont, voilà.
Convertis,
ouais. voilà. Mais on a les Sanitos, les Témoins de Jéhovah, les catholiques, les Mormons.
Les Adventistes.
Les Adventistes. On a pas mal de... On a les Juifs. On est ouvert à tout.
Il y a même des animistes encore.
Il y a encore.
Il y a une ouverture, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une ouverture d'esprit très grande.
Très grande.
Tout le monde cohabite au point de vue religion et...
Tout le monde est... On préfère s'entendre entre nous que faire la guerre ou se disputer pour pas grand-chose.
Ouais.
Parce qu'on a un Dieu, il est unique. On n'a pas différents dieux, toi, moi, c'est... Non, il y a une différente façon de le prononcer ou une différente façon de le dire, mais il est unique à tout le monde, c'est Dieu.
Un symbolisme très fort. Vous, dans votre travail sur verre, vous m'aviez parlé des croix marquisiennes qui symbolisent la Renaissance, par exemple.
Ah, il faut savoir que tous les symbolismes qu'on utilise dans le tatou,
ouais.
le tatouage,
ouais, hein, le tatouage,
c'est... on respecte ça. Il y a une signification derrière. On ne peut pas mettre un tatouage sur la peau de quelqu'un sans signification. Sinon, il sert à rien du tout. Soit ça explique sa vie familiale, soit sa vie ancienne, soit sa vie future. Le tatouage sert à ça, en fait. Il y a certaines formes de tatouage où voilà, on représente ta famille d'antan, on va dire, hein, ancestrale, tiennent plus proche du roi ou chasseur ou on va dire vous prêchez la bonne nouvelle voilà vous rapprochez des dieux etc voilà il y a un symbole aussi à l'intérieur de tout ça.
Donc il y a une question de caste entre guillemets, il y avait des nobles, il y avait des rois, il y avait des gens qui travaillaient pour les autres, des serfs, des choses comme ça.
Comme partout, ouais, tout à fait.
Pour comparer avec le Moyen Âge chez nous.
Tout quoi. À fait, c'est tout à fait ça.
Et est-ce que les rois ont encore des privilèges?
Certains. En Polynésie, il faut savoir que en Polynésie française, hein, faut savoir que il y a encore des gens qui ont des privilèges. C'est la famille Pumaré, mais par contre, quand on parle vers la Nouvelle-Zélande, c'est toujours très présent. Chez les Maoris, il y a beaucoup de et moi j'adore ça. Ils ont droit encore à certaines choses. Ils n'ont pas les terres.
Ils ont par exemple des honneurs. On leur fait des honneurs.
Toujours.
Ouais.
Toujours. Il y a toujours cette présence-là de cette famille royale.
Et ce n'est pas trop gênant pour les habitants classiques, non?
Non.
Ça fait un peu reine d'Angleterre sympathique. Quoi.
On n'est pas jusqu'à ce point-là, mais voilà. Il y a certains privilèges. Après, voilà, ça s'arrête là. Quoi, voilà.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous nous avez apporté, qui est d'une chanteuse très connue qui s'appelle Neil.
Neil, ah, c'est ma chanteuse un peu préférée des Tuamotu. Voilà.
D'accord.
Elle vient des Tuamotu, elle chante merveilleusement bien.
Donc on va se noyer un peu dans les sons polynésiens. Et en deuxième partie, on verra votre boutique, tout ce que vous faites au point de vue artisanat.
Ya, yeah. Mati. que llamar un tauá y un tauá Tapiki tapiki maiko eiru na yakume Hiraro taru baiti tumo miki miki
Bonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Patrice Ragoneau.
Yorana.
Yorana. Donc, on a parlé de la Polynésie en première partie. On va parler de votre travail ici à Gap.
Tout à fait.
Vous avez ouvert une petite boutique qui est à côté de la mairie.
Tout à fait.
Rue du Colonel Roux.
C'est ça, 16 rue du Colonel Roux.
Où vous travaillez le verre. Pour le moment, vous travaillez le verre.
Tout à fait.
Et vous allez bientôt travailler le bois dans pas très longtemps.
Ouais, d'ici quelques mois, parce que je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur de graver les verres. J'ai pas mal déjà de commandes. J'ai des gens qui viennent me voir pour, voilà, comme je personnalise aussi. Je personnalise beaucoup les gravures.
Vous pouvez faire une gravure sur demande quasiment.
C'est
ça. Avec un motif que vous amène la personne.
Oui, avec un délai de 2 jours, quoi. Le temps d'envoyer la gravure pour voir si ça, enfin, le dessin pour voir si ça plaît. Et le temps de graver, il faut un minimum de 2 jours.
Oui, voilà. Et autrement, vous avez des motifs traditionnels comme les danses, les fleurs,
oui.
Les geckos, oui. Les animaux.
Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je dessine un peu à la demande. Là, en ce moment-là, je dessine beaucoup des motifs de Polynésie. Comme des tikis, les hibiscus, enfin c'est Polynésie, mais voilà, ça va un peu plus loin que la Polynésie sur les hibiscus. Après, comme les geckos, les raies, les tortues, voilà, mais avec des symboles venant de Polynésie.
Les tikis, qu'est-ce que c'est ?
Ah, les tikis, en fait, c'est une genre de statuette, en fait, qui représente soit les dieux, c'est une genre de protection pour les Tahitiens, voilà, la Polynésie.
Ah, une protection contre les mauvais esprits.
Contre le mauvais esprit. Voilà. Ah. Si vous voulez, il y a une manière de tailler le tiki. Il y a une forme à donner au tiki. Et puis, quand on met les symboles à l'intérieur des tiki, c'est soit une protection pour l'entrée de la maison pour éviter que ce qu'on appelle chez nous les tupapaou, c'est-à-dire les fantômes, viennent nous embêter. Et après, on a pour la fertilité. Ça, c'est les tiki qu'on voit avec 3 jambes. Donc je vais pas vous expliquer, hein, 3 jambes, ça, voilà, ça.
Ouais, ouais.
Voilà. Et après on a les tiki pour les sorties de maison ou pour le jardin ou voilà. C'est soit pour le jardin, c'est plus en pierre qu'en bois.
Et ça ressemble au gris-gris qu'on a en Afrique un petit peu.
Oui, oui. Je vais pas dire non parce que ouais, c'est un peu bizarre, voilà.
Mais par contre, les fantômes, est-ce qu'ils peuvent être nuisibles, les fantômes ?
Non, pas tous.
Mais il y a des fantômes protecteurs ?
Tout à fait. Et on voit tout de suite quand c'est des fantômes qui sont protecteurs ou pas.
À quoi voilà. Est-ce qu'on le voit ?
Ben, vous savez, quand on rentre déjà dans une maison, quand vous achetez une maison ou quand vous construisez une maison, c'est 2 choses différentes. Acheter une maison, c'est qu'il y a déjà du vécu. Et quand vous faites une maison, c'est vous qui vivez dans cette maison. Vous apportez toujours le bienfait autour de vous. Quand vous achetez une maison qui n'est pas la vôtre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a certaines personnes qui sentent, quand ils rentrent dans cette maison, si elle est bienveillante ou pas. Nous, on a encore ce genre de choses en nous, voilà, pour voir si cette maison elle est bienveillante ou pas.
Et par exemple, dans le cas de votre atelier rue du Colonel Roux, est-ce que la maison était bienveillante ? Est-ce que vous avez dû faire quelque chose pour la protéger ?
On va dire que vous savez que quand on prend quelque chose comme ça, il y a toujours une prière. Devant. On le bénit, mais à notre façon, à la tahitienne.
Il y a plusieurs personnes qui viennent pour faire une communion de prière.
Ben, en fait, la bénédiction à la tahitienne, c'est très simple. On se met devant la boutique. Il y a une manière de se positionner, il y a une manière de se tenir. Parce qu'on demande au Dieu de bénir l'entrée et puis de pas que ça, que ça fonctionne.
Ouais, ouais.
Voilà, de donner un train, voilà, un train de vie confortable pour la suite. On sait que ce n'est pas facile tous les jours, mais voilà. Et il ne faut pas se dire que tout est acquis, voilà, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Vous la mettez sur les rails, entre guillemets.
C'est ça.
Et ensuite, en travaillant correctement, vous allez aller de l'avant, quoi.
C'est ça. Et c'est comme, moi, je dis à toute personne qui rentre, c'est, parfois, c'est pour le plaisir des yeux, c'est bien de rentrer pour regarder. Et pas forcément obligé d'acheter. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Je suis assez ouvert avec les gens. Les gens qui passent, ouais, je discute beaucoup avec eux.
On a compris que vous faisiez de la gravure sur verre. Mais comment est-ce qu'on devient graveur sur verre? C'est venu comme ça?
Alors, on ne devient pas graveur sur verre comme ça. Avant, je dessinais beaucoup. Voilà, je dessinais sur les murs, je dessinais un peu partout. Là où j'allais, comme les gens font, sur un cahier ou voilà. Donc, je bossais en Polynésie, j'ai bossé pendant plus d'une vingtaine d'années pour la grande distribution. Et puis, j'ai voulu faire autre chose. Je suis venu, j'ai regardé en fait qu'est-ce qui ne se faisait pas à Gap. Bien et sûr, pourquoi à Gap? Parce que voilà, ma femme, elle a vécu dans le Champsaur. C'est pour ça qu'on a choisi Gap. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas été facile au début. Parce qu'il fallait trouver un endroit où ouvrir une boutique. Ouais. C'est pas facile.
Pour trouver la boutique, ça a dû être costaud, en plein centre-ville.
Ben, en plein centre-ville, c'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, j'ai trouvé cette boutique, il fallait tout la retaper, il fallait faire pas mal de choses.
Ouais, ouais.
Bon, après, ça, c'est pas le souci. C'est pas le souci. Graveur sur verre, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas évident, c'est pas facile. Il y en a qui le font au laser, il y en a qui le font au sable. Mais à main levée, personne.
Ouais, voilà.
Donc
ouais.
Voilà.
Oui, donc vous le faites avec un petit outil portatif, avec des diamants.
Ouais, c'est des mèches en diamant. Je grave tout au Dremel. Comme ça, les gens, quand ils passent à la boutique, ils m'entendent souvent graver derrière mon comptoir.
On va laisser tout à l'heure votre site et ce qui serait génial, je pense que vous allez le faire, c'est de mettre une petite vidéo vous montrant en train de graver.
Ah, il n'y a pas de souci. C'est pas compliqué.
Et vous m'avez dit que quand on grave, l'outil vient petit à petit...
Enlever l'aspérité du verre.
Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est très difficile de rentrer juste comme il faut dans le verre, quoi.
Ben, c'est, en fait, du moment où on pose l'outil, où la mèche grave le verre,
ouais.
C'est les arrondis qui sont compliqués à faire.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est parce que les arrondis, une fois qu'on tourne avec la mèche et le verre, c'est pas facile.
Ouais.
Et ça, faut quelques temps d'apprentissage pour pouvoir connaître, en fait, son outil et savoir, travailler.
Oui, il faut appréhender cette sensibilité spéciale à l'outil qui travaille le verre.
Tout à fait.
Sur la signification de ce que vous faites, c'était en relation avec notre vie et que vous faisiez un partage d'existence avec, par exemple, votre client. Le client qui va venir vous demander un objet particulier, enfin, un dessin particulier, vous allez essayer de faire quelque chose en relation avec sa vie.
Tout à fait. Les gens qui viennent me voir et qui me racontent un peu leur vie, on prend un exemple. Dernièrement, je suis en train de dessiner un tatouage. Je ne tatoue pas. Hein.
Ouais, ouais.
Les gens passent au magasin et me demandent en fait, de dessiner pour eux un tatouage. OK, il ouais. n'y a pas de souci. Il faut juste que me racontez en fait, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie.
À quoi va correspondre ce tatouage?
Voilà. Et par-dessus, moi, je lui dessine en fait. Je lui demande à quel endroit va aller le tatouage. Parce que je ne peux pas lui dessiner le tatouage. Si ça va sur l'épaule, il faut que ça prenne la forme de l'épaule. Et à l'intérieur de ce tatouage, je lui dessine en fait ce qu'il m'a demandé. Dans sa vie familiale ou pas, le travail, etc. Voilà. Tout a une signification.
Je me rappelle le jeu de mots où vous dites que vous êtes un tatoueur de verre.
De verre, ouais. C'est ça. Tout à fait. Ben, c'est pareil hein, dans ce que je dessine sur le verre. C'est des tatouages. Mais ouais. Ça a une signification. Les gens qui achètent les verres, je leur explique, ça veut dire telle chose. Je ne peux pas... Un client dit, je veux ce verre, mais je vais vous expliquer ce que veut dire ce verre, la gravure, et puis à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas.
Est-ce que est-ce qu'ils rentrent un petit peu dans votre culture polynésienne ou ils tiennent à faire des motifs qui sont plutôt occidentaux, entre guillemets?
Occidentaux, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gens qui viennent, c'est plus pour avoir le symbolisme de chez moi, de Tahiti, quoi, ouais, la Polynésie.
Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est un échange avec eux.
C'est ça, tout à fait.
Ils viennent vers votre culture à vous.
Voilà, c'est ça.
Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous faites. On va laisser votre site internet.
Je suis sur Facebook. Hein. C'est,
sur voilà, Facebook,
vous tapez Taishan Glasses.
Taishan, ouais.
Voilà, Taishan, voilà.
Ouais, Glasses.
Glasses.
Oui, c'est le verre en anglais. C'est tout en anglais, Taishan Glasses.
Ben, en fait, on va dire Polynésie est plus proche des États-Unis. On utilise beaucoup de termes
anglais, ouais.
Américains pour signaler. Voilà.
Venir voir votre travail, 16 oui. rue du Colonel Roux.
Tout à fait.
Merci Patrice Ragoneau d'être venu à notre micro.
C'est moi qui vous remercie. Et comme on dit à Tahiti chez nous, au revoir, on dit nana. Maruru metei, au revoir.
Maruru metei.
Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see?